Interview.
2 pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de Benjamin. Bonjour.
Bonjour.
Benjamin, tu es ici pour nous parler de Gayamsar, une petite entreprise qui a été créée il y a quelques années.
Tout à fait. On a créé cette entreprise en fait. Il y a à peu près 5 ans, on a démarré plus en format traiteur sur les salons bio, assez éloignés finalement du Diwa, autour de Lyon, Montpellier. Et puis, depuis la crise qu'on connaît, on a arrêté les salons en format traiteur et on s'est concentré sur la transformation de produits et de produits locaux. Voilà, avec une gamme qui trouve vraiment son succès aujourd'hui, qui est organisée autour de l'ail noir. Et une autre gamme de produits déshydratés qu'on fait déjà depuis quelques années. Voilà, donc des produits qui souvent respectent l'intégrité, que ce soit au niveau des processus de cuisson, qu'au niveau de l'emballage et des origines.
Donc Benjamin, vous étiez dans la restauration avant de vous lancer dans cette entreprise de Gayamsa. L'hôtellerie, enfin la restauration pour vous, c'était votre métier initialement ?
Non, en fait, j'ai tout appris sur le tas. C'est plutôt une passion de la cuisine en elle-même, le fait de se faire ses aliments depuis longtemps, depuis même l'âge de 19 ans, quand j'ai eu mon premier appartement à Clermont-Ferrand. Et déjà à l'époque, je passais une heure à cuisiner par jour. Donc j'ai toujours eu ça, dans le sang. Et aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à développer vraiment des nouvelles activités autour de cette passion qui est la cuisine. Et encore plus quand elle se rapproche de quelque chose vraiment de terroir, comme aujourd'hui c'est le cas avec l'ail noir. On est dans la Drôme, on est un département et une agriculture spécialisée, en tout cas avec beaucoup d'ail. Donc on est très légitime de faire ça dans la Drôme et de proposer une autre manière en fait, de consommer ce mets aux mille vertus, quoi.
Justement, vous-même êtes producteur de ces produits que vous proposez ensuite, transformés ?
Alors, la partie production est en train de se mettre en place. On vient de récupérer par miracle 4 hectares de terre. Je dis bien par miracle parce qu'on sait évidemment les difficultés pour les jeunes agriculteurs d'avoir accès à la terre dans le Diwa. On est donc, je ne l'avais pas précisé, mais également agriculteur. On a sur le lieu 3 000-4 000 mètres carrés de maraîchage. Donc on lance aussi cette année la vente de nos légumes sur les marchés en même temps que l'ail noir. Et donc depuis quelques mois, on a eu la chance d'obtenir un fermage de 9 ans sur 4 hectares supplémentaires de terres agricoles. Et évidemment, ça a du sens pour nous de produire une partie de l'ail qu'on va ensuite transformer. Voilà. Mais pas seulement. On a des projets autour du sarrasin et du tournesol. Et là, je fais le lien avec ce que j'expliquais sur les produits déshydratés. Hein, donc les tournesols germés ou le granola sont des produits à base de tournesol et de sarrasin. Il faut savoir aujourd'hui qu'en France, on importe la quasi-totalité de ces céréales en grains, je parle, hein, alors que la Bretagne et d'autres régions sont producteurs de sarrasin, mais plutôt en farine. La France est productrice de tournesol, mais plutôt pour l'huile, on parle de tournesol oléique. En revanche, pour les tournesols en grains et le sarrasin en grains, qu'on trouve en vrac dans les magasins bio, par exemple, ou que les boulangers utilisent pour mettre sur leur pain, ça vient d'Europe de l'Est ou de Chine. Voilà. Et du coup, j'ai fait ce constat-là il y a quelques années. Et en parallèle de ces projets de transformation de produits, on va dire, pour arriver vers un produit fini, il y a du travail de filière en amont, sur essayer de structurer une filière autour du sarrasin et du tournesol, donc en grains. Voilà, et après, évidemment, il faut du matériel assez conséquent pour décortiquer, trier, ensacher ces céréales-là. Donc, créer une filière, c'est bien, mais derrière, il faut aussi proposer les débouchés pour pouvoir obtenir, on va dire, ces produits sous une forme qui soit commercialisable. Et donc, voilà, il y a un autre projet à Venavey-la-Rochette qui se fait en compagnie de la ferme Mandarou autour de cette machinerie, on va dire, enchaînement de 4 postes de travail, donc le nettoyage des céréales, le décortiquage avec 2 décortiqueuses différentes, une pour le sarrasin, pour le tournesol, mais qui feront aussi d'autres céréales. Il y a la partie trieur optique, où là, on va vraiment obtenir un produit impeccable, et ensuite l'ensachage en sac de 1, 5 à 20 kilos. Et l'objectif derrière ce projet, c'est vraiment de travailler sur l'autonomie alimentaire du territoire. C'est-à-dire qu'avant d'imaginer de vendre même ça au bout de la France, pour moi, mon rêve, c'est vraiment d'arriver à contribuer, comme plein d'autres le font ici, avec cette volonté d'essayer de découler ce qu'on produit vraiment localement. Voilà.
Tout à l'heure, vous disiez donc être par miracle acquéreur d'un terrain de 4 hectares supplémentaires. C'était un désir de longue haleine d'avoir ces terres. Comment ça s'est passé auparavant ? Est-ce que c'est dû justement, comme on peut le remarquer aussi dans le logement ou dans le bâtiment, un bouleversement des propriétés, des ventes aussi ?
Alors, je crois que la première vertu, quand on arrive dans le Diois, c'est la patience. Je pense que si on arrive à dépasser certaines étapes, on peut arriver à trouver un logement décent, chouette, dans lequel on peut épanouir et s'épanouir et laisser aller sa créativité en lien avec ses projets. Mais c'est vrai qu'il faut de la patience et un peu de chance aussi. Et concernant effectivement l'accès à la terre, il n'y a quasiment pas de possibilité pour un nouvel arrivant comme ça. Nous, on a obtenu un petit morceau de terre avec l'acquisition du logement, donc ça c'était au départ, 2 hectares. Et ensuite, d'année en année, y a l'amitié qui se crée, des liens qui peuvent se créer avec d'autres agriculteurs autour, et puis dès qu'il y a une opportunité. Il faut savoir aussi être suffisamment convaincant pour pouvoir proposer un projet qui soit en lien peut-être dans la continuité avec ce que cet agriculteur fait déjà ou aussi avoir un peu de chance. Ouais, c'est vrai.
Alors, mon attention a été attirée au départ par l'ail noir, un produit que je ne connaissais pas, mais qui est quand même du terroir, vous le disiez tout à l'heure. Vous connaissez son origine ?
Alors, l'ail noir n'est pas précisément du terroir, c'est l'ail qui est du terroir. Cette transformation, c'est assez extraordinaire en fait, et en même temps très simple, puisque c'est une caramélisation, c'est-à-dire que c'est le sucre présent en quantité déjà dans l'ail, et ça on n'en est pas toujours conscient, il y a 25% à peu près de glucides dans l'ail, et c'est cet effondrement des sucres qui va se caraméliser et qui va faire ce qu'on appelle la réaction de Maillard, et donc qui va... produire ensuite c'est pas une nouvelle matière, c'est toujours de l'ail, mais c'est tellement onctueux, tellement crémeux qu'on n'a plus l'impression vraiment d'être dans le produit original. Alors évidemment il y a encore des petites effluves, des choses comme ça qui rendent le produit très 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 appétant, il y a l'odeur, et après la texture, le goût, c'est très surprenant parce que c'est très sucré. Et en fait, quand on cherche un petit peu, on se rend compte qu'il y a très peu d'aliments qui ont ces 3 saveurs, c'est-à-dire le salé, le sucré et l'acide. Ça, on appelle ça la 5e saveur, ça s'appelle umami, c'est une saveur asiatique au départ. Alors on va pouvoir retrouver ça un petit peu dans le vinaigre balsamique notamment, des produits, l'aubergine aussi quand c'est cuit, confit, ce genre de choses, mais c'est assez rare. Et du coup, l'ail noir délivre comme ça une palette de saveurs, une texture très douce pour le palais. Ce qui est assez rigolo sur les marchés, c'est là qu'on s'est rencontrés, Adi, c'est que les gens s'arrêtent volontiers, ils goûtent un petit peu, puis quand ils n'ont pas le temps, ils partent, puis ils font 10 ou 15 mètres, et puis en fait, il y a vraiment la saveur qui doit exploser en bouche et qui doit aller titiller certains récepteurs, et hop, ils reviennent, quoi. C'est assez, assez incroyable.
L'apport nutritif de l'ail est assez conséquent, non ?
Alors voilà, c'est vrai que j'ai juste parlé de la partie gastronomique, hein, et juste pour finir là-dessus, c'est un produit aujourd'hui qui est assez en vogue, notamment chez les restaurateurs gastronomiques, hein, voilà, donc les chefs gastronomes, mais aussi des restaurants plus qui ont moins pignon sur rue, mais qui ont trouvé vraiment une utilité gustative à découper des petites tranches d'ail, voilà, et les poser sur, un plat. Ça va tellement avec tout, en fait, que une petite brousse, un chèvre frais, enfin voilà. Et pour la partie santé, on conserve toutes les propriétés santé de l'ail. La liste, elle est vraiment longue comme le bras. C'est antibactérien, antifongique, antiseptique, antisismique, antinucléaire. Non, mais je dis ça pour rigoler sur les marchés, mais c'est tellement, tellement riche comme aliment. Et alors, ce qu'on dit, suite à des études qui sont en train de sortir, mais sur lesquelles j'ai pas forcément planché et tout ça, c'est que ça rehausserait même les propriétés initiales de l'ail. Donc à confirmer.
Actuellement, sur votre petit catalogue, vous proposez une dizaine de produits, hein, déshydratés ou d'autres. C'est aussi un processus de recherche que vous avez établi. Et est-ce que, justement, en cours, là, vous êtes toujours en recherche, donc de propositions de futurs produits aussi ?
Alors, pour la partie déshydratée, effectivement, je vais raconter une petite anecdote. On faisait un pâté végétal au tournesol sur les salons et on est rentré une fois avec une quantité qu'on n'avait pas écoulée sur le salon et on s'est dit, au lieu de jeter ça, on va le faire sécher. Donc, c'est un petit peu comme la tarte tatin, quoi. On a fait sécher ça et puis, c'était super bon, c'était croquant, c'était plein de goût. Et voilà comment on a ensuite décliné 4 recettes de tournesol germé à l'orientale, à l'indienne, à la japonaise et à la provençale. Et pour la partie sucrée, les granolas crus nous ont beaucoup inspirés parce que c'était pas mal à la mode à un moment donné, donc de faire déshydrater à basse température, c'est toujours ce qu'on fait, hein. Des fruits, des graines ensemble qui ont été germées pour augmenter les propriétés nutritives et ensuite d'en faire vraiment des mets relevés en termes de goût, de saveur. On est toujours dans cette recherche là, c'est-à-dire que on n'a pas des gros volumes de production, alors on essaie de se concentrer très bien sur les petites quantités qu'on fait. Et donc ça, c'est pour la partie déshydratée, qui sont le fruit d'une recherche, effectivement. Et pour la partie ail noir, on est encore en développant de nouveautés. Là, on a sorti les têtes, basiquement. Puis ensuite, il y a un caviar qui plaît beaucoup aussi, qui est en petit pot, pour lequel, d'ailleurs, on a obtenu une médaille d'argent sur le salon Natexpo. Le salon Natexpo, c'est une fois par an le gros salon qui réunit les professionnels de la bio. Donc c'est plutôt très satisfaisant. Et ensuite, on a plein d'idées pour la suite, notamment les marinades que tu as pu déguster sur le stand, qui verront, on pourra les retrouver en petits pots également, comme le caviar. Voilà. Donc, la liste potentielle des nouveautés produits, c'est pas ce qui manque. Après, il y a des contraintes de distribution aussi, c'est-à-dire de packaging. Aujourd'hui, on est hyper on fait hyper gaffe à comment on package au mieux, le plus écologique possible, quoi, ayant le moins d'impact des produits qui en plus vont voyager. Donc il y a vraiment ces réflexions. Donc on se freine sur certaines choses parce que il n'y a pas la solution paquet qui est satisfaisante.
Justement, là, vous proposez l'ail donc en tête entière et vous la vendez aussi en bocal. Du fait que ça soit en conserve, il y a forcément un apport de sel par rapport à l'ail en tête.
Je pense que l'ail noir, pour un transformateur comme nous, c'est juste le produit miracle. Parce que comme c'est antibactérien, il n'y a rien qui peut l'attaquer, quoi. Et on peut laisser une tête comme ça Les gens me demandent souvent, mais ça se conserve combien de temps au frigo, tout ça. Ben, en fait, rien, quoi. Il n'y a rien à faire. Tu la poses dans ton panier de légumes, enfin, ou de fruits, dans ta corbeille de fruits. Et en fait, 6 mois plus tard, ça n'aura pas bougé. La seule chose, quand même, si ça aura bougé au niveau de la texture, c'est-à-dire que ça aura séché. L'humidité sera partie. Et du coup, on aura peut-être quelque chose d'un peu plus caoutchouteux. Voilà. Et là, on perdra un petit peu quand même en. Ouais, pas en saveur, mais en plaisir, on va dire, en bouche. Comme je disais, il n'y a nul besoin d'ajouter en fait, du sel. À partir du moment où le taux d'humidité est en dessous d'un seuil minimum, le produit se conserve tout seul. Si, par exemple, on mettrait de l'eau, ce qu'on ne fait pas dans une préparation pour la... pour l'émulsifier ou quoi, là, ça poserait des soucis, parce que c'est à partir de ce moment-là que les bactéries peuvent arriver. Là, étant donné qu'on est sur un caviar à 80% d'ail noir, 17% d'huile d'olive et 3% de sel, c'est inattaquable. Enfin, je veux dire, à tel point qu'on n'a pas besoin de pasteuriser, quoi. Et donc, c'est royal pour le produit, pour tout, quoi.
D'ailleurs, un ail noir se garde combien de temps
Comme je dis, il n'y a pas de limite. La seule limite que nous, on a observée sur nos produits, c'est qu'après, il va sécher et il risque d'être moins agréable. Là, on est en train de faire des tests de vieillissement aussi de l'ail noir. Voilà, je ne peux pas en dire plus que ça pour l'instant parce qu'on démarre juste, mais a priori, ce serait peut-être comme le bon vin.
Parce qu'il y a des saveurs qui se rajoutent avec le temps, c'est ça ?
Ah, totalement. Il y a des saveurs assez incroyables là, sur des gousses comme ça qu'on a gardées plus d'un an et qui viennent se rajouter à déjà, on va dire, la palette de saveurs initiale. C'est assez incroyable ce qui se passe, ouais.
Dans une intention de donner une autre saveur ou une nouvelle saveur, vous auriez tendance à expérimenter des dépôts de certains produits à côté de l'ail.
Alors, ça n'a pas été expérimenté encore, mais c'est une bonne piste, je te remercie. Non, mais c'est vrai, on peut tout imaginer. Après, bon, les saveurs de base sont déjà tellement incroyables que... qu'en fait, ce serait plus de ce qu'on a déjà expérimenté, augmenter la profondeur encore de ce qui est proposé vers une subtilité, en fait, dans l'acidité, dans le salé, dans le sucré. C'est-à-dire renforcer encore, on va dire, les caractéristiques principales de ces trois saveurs réunies ensemble vers quelque chose d'encore un petit peu différent, un petit peu plus profond. Et là, on rentre vraiment dans l'expérimentation. Oui, ce que je voulais dire, en fait, par rapport à ta question, c'est que ce n'est pas de la fermentation. Et ça, je voudrais vraiment le préciser, parce que souvent, et tu faisais le lien avec le fromage, lui, c'est la fermentation. C'est les ferments qui vont le faire travailler aussi beaucoup. Alors, effectivement, il peut avoir des apports d'autres choses autour de lui pour certainement lui donner du goût. Là, on est vraiment antibactérien, quoi. Donc, il n'y a plus de bactéries dedans.
Et puis tout ça se passe donc à Minglon, dans un bâtiment. Vous avez une superficie conséquente pour tous ces traitements à faire pour vos produits.
Alors oui, on a la chance d'avoir en parallèle du développement de nos activités culinaires, travaillé sur la construction d'un lieu qui s'appelle Solaya. Qui est un lieu, on va dire, aux multiples facettes. On a le côté maraîchage, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. On a un côté hébergement. On a construit des roulottes, en fait, pour héberger, que ce soit des stages, des événements, des touristes aussi pendant la période estivale. Donc des roulottes de qualité, tout éco-conçues. On a d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, un petit teaser sur YouTube, il faut juste taper Solaya, et puis on a 7 minutes qui présente un petit peu l'écolieu. Donc voilà, c'est le mot que j'avais pas dit, donc c'est un écolieu avec une diversité d'activités et donc un atelier de transfo qui occupe une partie du bâtiment principal qui se divise en donc un atelier de transfo, une salle d'accueil, une salle de restauration et une grande cuisine pour aussi les stages ou pour... Là, par exemple, en ce moment, cette semaine, on fait la cuisine pour une chorale qui s'est installée pour 9 jours à Luc-en-Diois. Ça s'appelle la Lupinette. D'ailleurs, je fais une petite pub pour eux. Ils seront à Châtillon, à Révigne aussi samedi soir. Voilà. Et donc, voilà, donc ce bâtiment répond aujourd'hui à un ensemble de besoins. Et il fait à peu près 250 mètres carrés pour la partie transfo alimentaire. Voilà, on commence à être légèrement exigu. Donc après, voilà, on ne sait pas. Peut-être que ça nous amènera à construire autre chose sur la zone de Luc-en-Diois pour pouvoir être un petit peu plus confortable.
Et puis donc, à Minglon, ce vendredi 6 août, entre 18 et 22 heures, vous proposez une soirée festive à Solaya. Donc on indique l'adresse au 395 chemin de Vailleux. C'est bien ça. Il y a, semble-t-il, des petites difficultés pour retrouver le chemin. Est-ce que vous avez des pistes à conseiller aux auditeurs ?
Oui, en fait, cette adresse, elle amène un tout petit peu au-dessus de là où on est. On va mettre des panneaux depuis Recoubo, pour que ce soit pisté et tourné au bon endroit. Et puis, il faut taper, sinon, Gayamsa, qui est la marque dont on vient de parler, notre marque. D'ailleurs, Gayamsa, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la contraction de Gaïa et de Hamsa. Gaïa, c'est la terre et Hamsa, c'est le souffle. Donc voilà, c'était un hommage aussi au souffle de la terre. Et donc Gayamsa sur internet, et puis vous mettez itinéraire à partir de ce qui est proposé, et là vous arrivez directement chez nous. Voilà, la soirée de vendredi, en fait, c'est une première un petit peu depuis ces dernières années où on a beaucoup été dans la construction, donc c'est un petit peu l'occasion de célébrer, d'offrir aussi une visite du lieu qui aura lieu un petit peu plus tôt dans l'après-midi à 16h30. Il y aura un petit marché aussi de vente de légumes sur place. Il y a un petit pot qui est offert à partir de 18h, 17h30. Donc la chorale qui va se présenter, c'est Chauffe Marcel. C'est une chorale de 25 femmes qui, pour beaucoup, sont originaires de la région lilloise et qui viennent nous proposer un répertoire complètement éclectique avec plein de choses différentes. Vous pouvez aussi trouver des extraits sur internet. Et non mentionné sur le fly, il y a Roda Viva également. Roda Viva que certains, j'imagine, pas mal connaissent déjà dans le Diwa, qui est donc une formation de samba qui s'organise autour d'une table ronde où il y a les musiciens d'un côté et les chanteurs, autour de la table, donc il y a les musiciens et les chanteurs. Et voilà, c'est très dansant, très, très festif. Voilà, donc ce sera en deuxième partie à partir de 20h. Voilà. Et il y a une petite restauration sur place également. Enfin, de quoi les enfants sont bienvenus.
Le tempeh family, ça, c'est une de vos activités ?
Alors, le tempeh, c'est une nouvelle activité embryonnaire qu'on démarrait. Pareil, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup. Là, pour le coup, il s'agit de fermentation. Donc, le tempeh, c'est vraiment un fromage de soja. On fera pousser du soja, c'est toujours pareil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la chaîne de production s'organise. On a des champs, on peut faire du soja, on a une dépelliculeuse. J'ai appris tout récemment que c'était pas très compliqué de dépelliculer soi-même le soja, et du coup de là on peut passer sur une protéine végétale délicieuse qu'on fait griller comme ça à la plancha ou qu'on découpe en petits morceaux en dés, et l'idée, c'est de faire déguster un petit peu du tempeh pour faire découvrir, et parce que ce sera une future production également qu'on souhaite proposer aux personnes du Diwa et puis un petit peu plus largement dans le département.
Et dans l'après-midi, avant cette soirée, donc, il y a aussi une visite des jardins et de l'écolieu, donc l'occasion pour le public de découvrir un petit peu votre univers, et une visite aussi des locaux.
Tout à fait. On peut organiser cette visite en trois parties. C'est un peu les trois parties dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la partie maraîchère, la partie visite d'une roulotte aussi, pour voir un petit peu comment elles sont agencées, et puis quelques détails sur la manière dont elles ont été conçues et fabriquées. Et effectivement, une visite de l'atelier aussi, pour comprendre peut-être un petit peu mieux pour les gourmands aussi, et puis les consommateurs, comment ça s'organise un atelier de transfo. Donc ça, entre 16h30 et 17h30.
Au début de l'émission, vous parliez donc d'une certaine autonomie alimentaire hein, sur les territoires. Vous travaillez, vous œuvrez pour cette idée. Malgré tout, vous distribuez vos produits au-delà du Diwa et même de la région.
Voilà. Alors, aujourd'hui, enfin, plus ça va, plus j'avance dans ma vie, moins j'essaie de faire de concessions, on va dire. Je pense que c'est un chemin de vie au niveau professionnel. Voilà. Aujourd'hui, l'ail noir, c'est sûr que si on se met seulement à vouloir vivre d'une vente locale, on n'y arrivera pas. On a, en plus de ça, comme je disais, une forme de légitimité. On est dans une région vraiment où il y a un ail exceptionnel. Enfin, voilà, donc, j'estime que pour développer des activités qui fonctionnent aujourd'hui économiquement et après... ce que je dis aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai dans quelques temps, et ben c'est bien de s'appuyer sur quelque chose qui a une envergure un petit peu plus grande hein, en termes de territoire pour ensuite soutenir des activités agricoles locales non délocalisables. Et c'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire c'est de s'appuyer aujourd'hui sur le développement de l'ail noir pour financer que ce soit des infrastructures, des investissements locaux, de machines, je vous parlais notamment des machines pour transformer localement du sarrasin, du tournesol. Enfin voilà, l'idée c'est toujours ça, c'est de sortir un petit peu de notre périmètre pour asseoir une activité qui ensuite alimente d'autres qui n'ont pas la possibilité ou la capacité d'être fait à grande échelle.
Votre entreprise, c'en est une, ce n'est pas une association ou une structure associative. Lors de votre lancement de Gayamsa, est-ce que vous avez eu un soutien, un apport peut-être de collectivités pour développer justement votre secteur ?
Alors oui, sur la partie agricole, hein, qui est un petit peu différente de Gayamsa, mais j'ai expliqué tout à l'heure, sur le projet donc typiquement de filière sarrasin tournesol, on a été immédiatement soutenu par le département région. Ça a été vraiment, vraiment un projet qui leur parle. Donc c'est des problématiques au niveau résilience, autonomie alimentaire qui sont quand même aujourd'hui qui font écho auprès des élus et même des personnes hein, citoyennes qui peuvent participer à ces commissions de sélection de dossiers comme ça nous est arrivé au département. Donc tout de suite, on a eu une oreille attentive et un soutien à ce niveau-là. Concernant le projet d'ail noir et le développement, pareil, là, je viens d'avoir, j'étais ce matin au téléphone avec la région sur fonds de soutien bio. Hein, ça, c'est toujours des dossiers sur lesquels on peut, je le dis, et puis ceux qui sont dans ces activités le savent certainement. Il y a toujours la possibilité de faire des dossiers fonds soutien bio pour des achats de matériel. Voilà, donc immédiatement, j'ai été recontacté suite à l'envoi de mon dossier. Donc oui, il y a quand même un soutien assez... assez fort, je dirais, du département et de la région sur ces sujets-là.
Justement, en parlant de politique agricole bio, quel est votre regard sur celle menée par le gouvernement actuellement sur la filière bio et son développement ou son soutien par rapport aux impératifs européens ?
Alors justement, j'ai été très intéressé par l'interview qui avait été faite par Vincent à Chapia. Et donc, c'est l'interview de... Je ne me souviens plus de son prénom. C'est Vincent aussi. Vincent. Ah oui, c'est Vincent aussi, ouais. Voilà, donc c'était vraiment, vraiment intéressant d'écouter tout ça. Évidemment, la baisse des subventions aux agriculteurs bio, elle est quand même... parce qu'il y a deux types de subventions. Hein. Là, il y a des subventions d'achat d'équipement. Là, il y a toujours de quoi. Mais des subventions de fonctionnement, de soutien de l'activité, là, il y en a beaucoup moins. Et donc, c'est deux manières... pour moi, c'est deux mesures qui devraient être concomitantes. On ne peut pas abandonner un producteur et simplement lui permettre de financer des machines si derrière, il n'a pas un peu de fondrement ou de trésor ou même de soutien en période difficile. Enfin, voilà, on connaît les difficultés de l'agriculture bio aujourd'hui. Si certains en doutent, faut qu'ils viennent nous rejoindre sur le maraîchage. Par exemple, cette année, on commence à avoir des légumes juste là en août. Il y a eu des conditions climatiques difficiles. Enfin, voilà, c'est quand même des activités qui sont essentielles. C'est évident, manger des légumes locaux, biologiques. Donc il devrait y avoir, à mon sens, moins de langue de bois, moins de greenwashing. Enfin, clairement, quoi, on n'est pas dupes, hein, globalement, de ce qui se passe. Hein. Mais j'ai quand même le sentiment et la et les preuves hein, que c'est au niveau département régional qu'il faut s'organiser quoi. Enfin voilà, plus un département sera autonome dans son accès, on va dire, aux aliments de base, plus il sera résilient, plus il sera fort, plus il pourra aussi inspirer ses voisins. Donc voilà, je pense que on a dans la Drôme tous les ingrédients en fait pour réussir cette transition alimentaire, pour arrêter d'importer des choses qui viennent de loin, pour être vraiment amener de la conscience là-dessus. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire avec ce projet de filière. J'espère que d'autres, voilà, et je sais même pas j'espère, je sais que d'autres le font, mais qu'il y ait plus de conscience et de conviction, on va dire, dans les années qui viennent sur ces dynamiques-là d'approvisionnement.
Peut-être même une convergence d'agriculteurs sur une certaine filière ou d'autres à découvrir encore.
Ça, ce serait génial. Le seul problème, et puis l'expliquer un petit peu par rapport à la Confédération paysanne, j'ai d'ailleurs été très emballé sur le fait de pouvoir adhérer aussi à la Confédération paysanne, puis la différence qu'il y a entre agriculteurs et paysans aussi. On a peu de temps, c'est vrai qu'on est tellement, c'est des métiers qui sont tellement, tellement, tellement prenants que, en fait, avoir le temps de se poser, s'organiser, et pourtant, c'est aussi tellement réconfortant, en fait, de pouvoir être et parler avec d'autres personnes qui font le même métier. J'ai à cœur, de pouvoir m'investir aussi personnellement là-dedans, d'essayer de réunir déjà. C'est ce que j'essaie de faire en créant des liens. Moi, je suis un néo, quoi, hein, donc là, faut aller. Essayer de développer des relations chouettes de voisinage avec des collègues agriculteurs, et petit à petit on fait partie du paysage, et après on va pouvoir essayer de se réunir. Mais bon, on peut pas arriver juste avec des idées un peu de citadins et dire ouais les gars on va faire des choses ensemble, alors que les mecs ça fait déjà des années. Ce qu'il faut arriver à inséminer petit à petit, c'est une manière différente peut-être de produire et une manière différente de vendre aussi. Et ça, je pense qu'on est tous, on peut être tous, voilà, co-responsables et intéressés par ces démarches-là.
Et c'est un peu à l'image de cette fête donc à Minglon, hein, ce vendredi, comme celle qu'on peut trouver un peu partout dans le Diwa ou ailleurs. C'est aussi un moment de rencontre, justement, entre producteurs, peut-être, pour parler de ce qui se passe, tout simplement, et peut-être de trouver un fil entre vous. D'où l'importance, quand même, du maintien de ces fêtes de village. Il y a aussi un rôle très social derrière.
Tout à fait. Je pense que nous, on a envie de danser encore. Hein, je veux dire, malgré le marasme. Je pense qu'en fait, il n'y a pas réellement de marasme. C'est toujours quel regard en fait on pose sur la vie. Je pense qu'il faut surtout éviter de trop écouter les médias, voire pas du tout. Il faut essayer de s'investir dans des causes qui nous parlent localement autour de chez nous. Dès qu'on peut aider aussi, être dans la fraternité, ça c'est vraiment chouette. Nous, c'est vachement important pour nous. Ça a beaucoup de valeur, en tout cas d'importance, d'organiser un événement comme ça, parce qu'on a tellement été dans la construction, un peu tête baissée pendant des années et des années, que ouvrir le lieu, commencer à en faire un lieu où on peut faire la fête, où on peut se retrouver, c'est très très important pour nous, et c'est une des raisons d'être du lieu. Puis une dernière chose par rapport au lieu, c'est que depuis 2-3 ans, on accueille pas mal de woofers qui nous ont beaucoup aidés. Je voudrais aussi leur rendre hommage et leur dire merci, parce qu'il y a plein de choses qui n'auraient pas pu se réaliser, notamment au jardin, sans leur aide. Donc voilà, merci à tous ces volontaires, à toutes ces belles âmes qui ont croisé notre chemin. Ça n'a pas toujours été évident. Aujourd'hui, on a un lieu maintenant qui a plus de maturité, qui peut accueillir de manière plus fluide. Donc voilà, j'espère qu'on pourra recroiser et se proposer d'autres expériences encore réjouissantes comme celles qu'on a pu vivre.
Je rappelle aux auditeurs un site internet où on peut découvrir, entre autres, avec d'autres entreprises. Hein, vous êtes plusieurs entreprises dans cette idée. Vous avez un site commun, et donc dont l'une des pages est... concerne votre activité de Gayamsa, l'adresse est
terraveggie.fr. Effectivement, c'est aujourd'hui la vitrine qu'on a sur le web, où l'idée c'était de mettre en avant des petits producteurs. C'est pas évident parce qu'aujourd'hui exister sur le net en tant que site marchand, c'est juste ça c'est juste complètement fou hein, quand il y a des Amazon, des Greenwiz, des gens comme ça à côté. En fait, voilà, c'est très compliqué. Mais bon, voilà, ça, quand les gens connaissent, après, ça fait aussi une plateforme de vente en ligne et qui permet aussi de découvrir les catalogues, les descriptifs produits, enfin un petit peu tout ça. Et puis peut-être de nous retrouver après directement, soit sur les marchés, soit sur le lieu ou en magasin également.
D'ailleurs, vous êtes sur le marché de Die, vous l'êtes sur d'autres ?
Oui, tout à fait. Cette année, c'est un peu l'année voilà, des nouveautés. Comme je vous le disais, on s'investit de plus en plus sur la vente directe. Ça, c'est un aspect important. D'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'on va lancer une petite épicerie sur le lieu également, qui va regrouper des produits de producteurs autour, les nôtres, et puis voilà, magasin de vente directe. Effectivement, avec beaucoup de joie, parce que c'est super d'en rencontrer plus les locaux. Le marché de Luc-en-Divois le mardi soir, le marché de Minglon le lundi soir, le marché de Châtillon, on va attaquer un peu tardivement, mais le vendredi matin et samedi matin à 10.
Saillant, non ?
Et c'est pareil, on aimerait bien y aller, Saillant, Cré. Si, on devrait attaquer le marché de Cré aussi via un agriculteur partenaire là, qui va pouvoir revendre nos produits. Si, ça y est, ça fait partie des objectifs, mais après, il y a tout qui se... Voilà, marcher, c'est aussi beaucoup de temps, quoi.
Eh bien, voilà, pour les auditeurs, cette soirée festive à Solaya, donc à Chemin de Vailleux, au 395 à Minglon, et ça commence à 16h30 avec cette visite du lieu et des jardins, et ensuite,
un petit apport sur l'adresse. En fait, pas mal de gens connaissent Buenas Ondas, et ben c'est juste en dessous. En fait, c'est quand on arrive de Recubo, c'est la rue avant celle de Buenas Ondas.
Benjamin, je te souhaite une bonne soirée.
Merci Yves.
Au revoir.
Au revoir.